Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles en direct sur Sud Radio. Il est 13h passé de 4 minutes, comme chaque semaine, vous le savez. Nous sommes aussi en live vidéo sur Facebook et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Je pense que vous serez également nombreux à revoir cette émission. Nous sommes ensemble pour une heure avec un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement chargée et grave de la semaine et puis aussi pour nous parler de son dernier livre qui, à peine sorti, s'est déjà hissé en tête des ventes. C'est parti pour Les Incorrectibles.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour est un véritable phénomène, on peut dire cela. Un homme de mots et d'images venu de la ville rose, Toulouse. Tour à tour blogueur, écrivain, vidéaste et scénariste de bande dessinée. Ce passionné d'histoire est déjà l'auteur de deux best-sellers, Carnet de guerre et Crépuscule des Titans. Il est contestataire, en tout cas on peut le qualifier ainsi. Il est aussi qualifié de patriote, réactionnaire. Il n'hésite pas à utiliser un langage pour le moins fleuri, vous allez le constater. Et puis il utilise aussi la provocation pour mettre en avant très souvent ses idées, porter un regard critique sur la société actuelle. Papacito, bonjour.
Ben bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
Ben merci à vous d'avoir accepté notre invitation, c'est la première d'ailleurs. On est ravis en tout cas de vous recevoir puisque l'émission porte un nom prédestiné.
Ouais, hein, tout à fait.
Pour vous recevoir, Les Incorrectibles. Alors, votre nouvelle bombe littéraire, on peut l'appeler ainsi, s'appelle Expédition Punitive. Hein. Elle est disponible depuis jeudi, toujours aux éditions Ring. Et vous êtes donc aujourd'hui, je le disais, à nos côtés pour nous en parler. Hein. On va en parler tout à l'heure. Et puis pour nous donner votre point de vue sur les sujets forts du mouvement. Alors, on va commencer bien sûr par cette terrible actualité de la semaine, c'est bien sûr l'atroce assassinat d'un professeur d'histoire géo, Samuel, décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, par un jeune homme de 18 ans, né à Moscou en 2002 et d'origine tchétchène. Cet enseignant avait tenu début octobre à ses élèves un cours sur la liberté d'expression en montrant des caricatures de Mahomet. Ce cours avait fait polémique au sein de son établissement. Selon les dernières informations, le meurtrier tué par les forces de l'ordre était originaire d'Évreux, dans l'Eure. Il n'était pas un élève du professeur tué, ni scolarisé même dans le collège du Bois d'Aulne ou un lycée voisin. Il n'était pas connu pour radicalisation par les services de renseignement. C'est quand même hallucinant. Mais les éléments recueillis attestent d'une préparation précise et sont venus corroborer un message que je ne vais pas relire, mais un message de revendication publié sur un compte sur Twitter. Alors, Emmanuel Macron a bien sûr qualifié cet assassinat d'attentat terroriste islamiste caractérisé. Trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le parquet national antiterroriste a annoncé s'être aussitôt saisi de l'enquête ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. La communauté des enseignants est évidemment extrêmement choquée. Les personnalités politiques n'ont pas manqué de réagir, dénonçant une attaque contre la République, contre la liberté d'expression, pilier de notre démocratie, et contre la laïcité. Quelle est votre réaction, Papacito ?
Ben, moi, je m'attache toujours à l'impression qu'on est un petit peu viscéral, au-delà des ramifications, des explications intellectuelles. Moi, j'entends qu'en France, qui est censé être voilà, le pays des Lumières, on apprend qu'il y a un professeur qui a été décapité. La ville s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Moi, j'entends Conflans-Sainte-Honorine. Je crois que c'est la capitale des bateliers. Donc, on est transporté. On imagine. Ça pourrait être une aile de Versailles. Ça pourrait être dans un roman de Victor Hugo. La gauche est passée par là. Donc, c'est pas. On arrête de rêver. C'est une décapitation d'un prof d'histoire dans une ville française.
Vous pensez qu'il faut employer les mots rien que sur ce champ lexical. On voit. Il y a beaucoup de journalistes de mes confrères qui disent égorgé. Non.
Non, c'est une décapitation. Une décapitation, les gens ne le savent plus parce qu'il n'y a plus de paysans pratiquement en France, mais décapiter un animal, c'est quelque chose. La moitié des Parisiens ne savent pas vider un poulet. Décapiter quelqu'un, c'est quelque chose. Donc c'est pas c'est pas un geste banal. Quand on décapite quelqu'un, ça correspond quand même historiquement, ça correspond à une sanction. C'est une exécution. Et c'est une exécution qui, à mon avis, signe un acte de guerre. Et le symbole du prof d'histoire...
On est entré en guerre, selon vous.
Ah, mais depuis très longtemps, depuis très longtemps. Une cathédrale qui brûle, un prof d'histoire qui est décapité, symboliquement, c'est très fort. Le prof d'histoire, c'est celui qui transmet la civilisation aux nouvelles générations de Français. Si on s'attaque à lui et qu'on le décapite quelque part, symboliquement, on décapite le legs, on crée une rupture dans l'histoire de France, dans la transmission de la culture française. Il y a un ordre nouveau, il y a une population nouvelle, il y a de nouvelles règles, visiblement. Voilà. Et moi, j'appelle pas ça des débordements ou des actes isolés, j'appelle ça une guerre contre l'Occident et contre ce que l'Occident a de plus performant et de plus brillant, c'est-à-dire ses enseignants. Et moi, je pense, enfin, j'ai pas oublié le drame de la cathédrale, qui pour moi, il y a pas encore de, on n'a pas encore de conclusion de l'enquête, mais pour moi, c'est pas un hasard non plus si tous ces événements se télescopent rapidement. Donc pour moi, c'est une série d'actes qui marquent, oui, une guerre qui est faite à l'Occident et à la France particulièrement.
Alors un rassemblement va avoir lieu tout à l'heure à 15h hein, sur la place de la République auquel Jean-Michel Blanquer va participer. Emmanuel Macron doit réunir également un conseil de défense face à la multiplication de ce genre d'actes que vous décriviez. Quel genre de mesures faudrait-il envisager selon vous? Parce que pour dénoncer ça, ils sont toujours là. Ben, le problème, est-ce que selon vous, les mesures prises sont suffisantes? Apparemment pas.
Bien sûr que non. Moi, personnellement, si vous me demandez...
On entend à chaque fois dire qu'on va réagir avec fermeté, et pourtant, il y a quand même un sentiment d'impuissance.
Non, mais il y a une fermeté qui pourrait valoir, quoi, qui pourrait être la solution, c'est de rapatrier la Légion du Mali. D'ailleurs, je sais pas ce qui protège le Mali. La moitié de la population malienne, c'est la famille Traoré. Ils sont en Île-de-France, donc je sais pas qui reste. Il reste peut-être l'autre moitié de la population malienne. Il y a plus rien, il y a plus personne à défendre là-bas. Il faut revenir en France. Ça sert à rien de traquer les terroristes au Mali, si en plus c'est pour les relâcher... par paquet de 200 pour récupérer des otages qui ont le syndrome de Stockholm, qui reviennent en France. Le ménage en France, il y en a à faire. Je crois qu'il faut arrêter de se demander si c'est islamophobe de vouloir demander qu'on revienne, qu'on adopte des solutions radicales. Des pays musulmans eux-mêmes adoptent des solutions radicales pour lutter contre leurs terroristes. Bachar al-Assad en Syrie, l'Algérie dans les années 90 ont eu des vagues de terroristes effroyables. Ils ont appliqué les seules méthodes qui fonctionnent, c'est-à-dire le décapage à zéro. Et ça, pour ça, il faut des hommes politiques qui ont une paire. Hein. Voilà, et je crois que c'est une espèce qui est de plus en plus en voie de disparition.
Selon vous, l'islam est compatible avec la République française et ses valeurs?
Pas tel qu'actuellement. Je pense qu'il y a... pour faire une réponse claire, non. Je pense cependant que dans la communauté musulmane, il y a des gens avec qui on peut vivre, d'accord? Je sais pas si c'est une majorité, je ne pense pas. Il y a une part d'entre eux, je pense par exemple voilà, des personnages que j'ai mis souvent à l'honneur, Saddam Hussein, Bachar al-Assad justement, sont des musulmans, sont des gens avec qui on peut faire société. Mais actuellement, l'islam, en tout cas les musulmans qui sont en France, je les essentialise un petit peu, mais c'est pas du tout cet islam-là, c'est pas du tout l'islam qu'on a connu.
Enfin, c'est quand même pas des modèles, hein, Saddam Hussein et Bachar al-Assad non plus dans l'autre sens. Hein.
Écoutez, moi en tout cas, je trouve qu'ils ont traité le terrorisme comme il fallait. Il y avait l'État islamique en Syrie, ça a été réglé, ça a mis du temps, mais ça a été réglé. Bon, voilà, peut-être Vladimir Poutine alors, dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ils nous montrent quand même que les solutions, elles sont. Il faut qu'à un moment, elles soient radicales. Donc je pense qu'on va avoir un problème avec la catégorie de musulmans qu'on a maintenant. Le musulman de 2020 en France, c'est très 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 complexe. Ça va être très 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 complexe.
Alors en parlant de radicalité, hein, vos propos, eux, ils le sont souvent. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt, on va dire, politiquement correct dans votre façon de vous exprimer. Mais alors, si on passe faire un petit tour sur votre compte Twitter, là, ça devient nettement plus radical. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est vrai que d'abord, on est une radio grand public et puis ça pourrait choquer pour certains. Mais en tout cas, c'est vrai que j'invite les gens à aller voir et se faire leur propre opinion. Mais quand même, j'aimerais revenir sur certains tweets. Alors, le 28 juillet dernier, vous tweetiez, parmi d'autres tweets, « Ce lycée est une allégorie de la France. Quand elle sera complètement pourrie et ensauvagée, je vous cite, ces, entre guillemets, merdes de communistes viendront pleurer à genoux pour implorer un peu de fascisme. »
Oui, parce qu'en fait...
Vous revendiquez ces propos?
Mais bien sûr, et je les maintiens, et je persiste et signe, la gauche...
Et je dis pas tout, hein.
Oui, non, mais la gauche a, pour vaincre, si vous voulez, pour vaincre l'ennemi de la gauche, qui est le pays historique, donc le catholicisme, les gens enracinés, la gauche a utilisé un allié de circonstance qui a été les populations musulmanes non éduquées qu'elle a importées... qu'elle a sédentarisé, qu'elle a fixé et qu'elle a dressé contre les populations historiques. Et comme à chaque fois dans l'histoire entre l'islam et la gauche, entre l'islam et le communisme, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Algérie, l'extrême gauche finit systématiquement par se faire décapiter, c'est le cas de le dire, par son allié musulman, parce qu'elle pense être compatible. Moi, je vous dis, en fait, il va y avoir de moins en moins.
Oui, parce que pour vous, excusez-moi de vous interrompre, beaucoup de profs sont des islamo-gauchistes laxistes qui ont laissé la violence s'installer et qui récolteraient donc aujourd'hui les fruits de leur manque de sévérité. C'est ça, hein, si on devait résumer.
Tout à fait. pendant longtemps, les professeurs qui sont très majoritairement d'extrême gauche ont milité, voilà, dans le mitterrandisme, dans toutes ces choses qui nous ont amenés à la France qu'on a aujourd'hui. Et cette France qu'on a aujourd'hui.
Enfin, qu'avait eu la Francisque, hein, votre Mitterrand. Donc, il n'était pas.
Il y a eu certaines. Il y a eu certaines choses, si vous voulez, qui n'étaient pas anodines quand ils les ont faites. De la propagande médiatique, de la propagande à l'école. Et ça a fabriqué cette France qui leur explose au nez aujourd'hui. Parce que ces Français-là ont été fabriqués par l'éducation nationale. Cette France-là, la France qu'on a aujourd'hui, l'organe de propagande principal, celui qui prend les individus à la racine, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale est un appareil d'extrême gauche qui a refusé de se plonger dans les problèmes qu'il fallait traiter rapidement, parce que c'était du racisme, parce que c'était de la xénophobie. Et en faisant la sourde oreille, ben aujourd'hui, elle récolte le fruit de ce qu'elle n'a pas traité à l'époque, ou de ce qu'elle elle ne nous a pas laissé traiter.
Vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment plus violents maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant ?
Je ne sais pas s'ils sont plus violents. Par contre, ils sont beaucoup plus réalistes. Il y a beaucoup moins de place pour l'utopie, que ce soit parce qu'il y a la promesse d'un effondrement global lié à la pollution, le spectre d'un écroulement économique. Je crois que le jeune d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est plus violent, mais en tout cas, il a beaucoup moins d'espoir. Donc, il est beaucoup plus pragmatique.
On a perdu le contrôle, selon vous, notamment dans les cités, hein, suite à un trop grand laxisme, notamment en matière de justice. Je pense que là, la nomination d'Éric Dupond-Moretti, ça doit vous donner...
Ah ben, je ne sais pas si M. Paty a un sentiment de décapitation ou s'il a vraiment été décapité. Il faudra demander à M.
Dupond-Moretti.
À M. Dupond-Moretti, c'est un spécialiste en la matière, puisqu'il a l'air de nous dire que ce que nous voyons n'est pas réel, ce que nous ressentons dans nos chairs n'est pas ressenti. Apparemment, on est dans une projection, c'est nous qui voyons des choses. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité est une projection de notre extrême droite coupable. Et pour lui, visiblement, il n'y a pas de raison de s'alarmer, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, je crois que c'est... Je ne déforme pas ses propos. Il a dit que les Français ont un sentiment d'insécurité qui n'est pas quelque chose de palpable. Bon, mais je crois qu'aujourd'hui, avec la multiplication des actes terribles qu'il y a eu cet été... bon, cet été, ça a été une série noire, puis là, ça reprend. C'est pratiquement quotidien. On est au-delà du sentiment, là. Je pense que le peuple français éprouve dans sa chair une réelle insécurité.
Pour vous, il faudrait corriger violemment les délinquants. Les policiers devraient avoir le droit de se servir davantage de la force quand la preuve de la faute est avérée. Les profs aussi ?
Non, mais c'est un débat qu'on a en France.
Après tout, la méthode américaine.
Oui, non, mais moi, je vous dire, moi, c'est Robocop en classe. Si vous me demandez, vous mettez Robocop en classe avec... avec tous les droits pour maintenir l'ordre.
C'est-à-dire des profs armés ?
Non, mais les profs, en fait, ils sont beaucoup trop d'extrême-gauche pour qu'on les arme. Il faut des types qui sont pas liés à l'éducation nationale. Pourquoi pas des parachutistes ? Un parachutiste par classe, hein, avec un P-35. Et puis, je vous garantis que l'ordre va vite revenir partout.
On peut pas faire ça partout.
Je sais ce que vous allez me dire. C'est dans un pays comme la France, c'est impossible. Au Texas, c'est la norme. En Irak, c'est la norme. Et ce sont des pays avec des très beaux paysages, fantastiques à visiter. Et où quand il n'y a pas la guerre, il fait très bon vivre.
Alors justement, parlons un peu de l'Amérique justement. Qu'est-ce que ça vous a inspiré l'affaire George Floyd et en France les affaires Adama Traoré ?
Ben, ce que je constate, c'est que, alors peut-être que M. Paty n'était pas assez multirécidiviste pour que M. Mélenchon vienne s'agenouiller.
M. Paty, vous voulez dire Éric Dupond-Moretti ?
Non, M. Paty, l'homme qui a été décapité.
Ah oui, pardon.
Peut-être qu'il n'était pas assez multirécidiviste pour avoir le droit à de la reconnaissance de la part de la gauche. Libération ce matin s'est fendue d'un article pour dire que ça y est, l'extrême droite était déjà en train de récupérer ce meurtre, que c'était honteux. Moi, ce que je trouve honteux, c'est le meurtre. Ce que j'aimerais voir, c'est la gauche qui a été si prompte à aller s'agenouiller pour un multirécidiviste américain, le fasse pour un de nos profs d'histoire autochtone qui vit, après tout, à combien là, je sais pas combien c'est, le bled Conflans-Sainte-Honorine, c'est à côté de Paris. Bon, on a envie d'aller se porter au secours de toute la misère du monde tant qu'elle est loin, et le péril qui est en bas de chez nous, on veut pas le voir, on veut pas le traiter. Donc moi, je vois que la gauche se défile complètement et elle est absente de ce dossier. On l'a vu aux côtés des Traoré, on l'a vu aux côtés de George Floyd. Que fait-elle aujourd'hui ?
Vous pensez qu'il faudrait aussi condamner les parents des mineurs délinquants ?
Non, mais il faut condamner... C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer.
Il y a 11 gardes à vue en ce moment, toute la famille...
C'est pas suffisant parce que il y a apparemment, d'après ce que j'ai compris, alors ça c'est l'enquête qui va le dire encore une fois. Moi je suis pas enquêteur. J'ai quelques éléments qui ont filtré comme ça. Il faudra les vérifier. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des profs qui ont marché un petit peu dans la combine, qui se sont mis contre ce professeur-là.
Il y a une enquête, oui.
Voilà. Ouais. Donc la collaboration.
Il était visé depuis la semaine dernière par la plainte d'un parent d'élève indigné qui lui montrait des caricatures de Mahomet à sa classe. Ce père avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il qualifiait l'enseignant de voyou pour avoir donc montré ses caricatures. Voilà, c'était même pas en plus dans la classe. Bon, à vérifier, mais ce ne serait même pas dans la classe de sa fille.
Mais pour qu'un crime comme ça arrive, il faut que des verrous sautent. Il faut que des interdits sautent, des interdits moraux. Il faut qu'on sente qu'il y a une faille dans l'éducation nationale. Ça, la personne qui a commis ce crime, ou l'entourage qui a, les gens qui ont permis à ce crime de se passer, ont compris qu'il y avait une faille, que devant eux, il n'y avait rien. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions. Ça n'arrive pas comme ça, si vous voulez, quelque chose comme ça. Ça n'arrive pas dans les autres pays où les institutions sont fortes. On en arrive là parce que on a lâché ce prof, parce que médiatiquement, on a occulté certains problèmes, parce qu'on n'a pas voulu voir certaines choses. Et aujourd'hui, les gens font semblant de trouver que c'est bien malheureux, mais c'est étonnant que les gens soient étonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va se reproduire, on va encore y avoir droit. C'est pour ça que j'ai pas de complexe à prôner un État fort et des mesures radicales, parce que quelque chose comme ça, c'est inacceptable que ça se passe.
Et vous pensez qu'on doit craindre que les professeurs se mettent dorénavant censurés?
Mais ils le sont déjà depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé à l'éducation nationale. J'ai travaillé au collège Stendhal, dans le quartier du Mirail, à Toulouse. J'étais pion. C'était en 2011-2012, je peux vous certifier qu'il y avait déjà des problèmes de cet ordre-là et que l'école s'accommode. Quand vous avez 75% d'élèves qui sont d'obédience musulmane, vous pouvez pas avoir le même fonctionnement d'établissement qu'un collège de centre-ville où vous allez avoir 70% d'enfants athées ou chrétiens ou de culture chrétienne, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça fait longtemps que l'éducation nationale fait des arrangements avec tout ça. Parce qu'elle est très encombrée par ça.
Mais est-ce que, bon, malgré tout, ça repose la question évidemment de cette liberté d'expression, elle est en danger en France selon vous?
Ah mais tout à fait. Bon. Mais pas que à cause de ça. Elle l'est aussi. Il y a des gens qui sont venus à la radio, là, chez France Inter, je crois, pour dire qu'il fallait moins de discours de droite à la télé. Les censeurs sont pas uniquement les terroristes. Hein. L'extrême gauche est un énorme ennemi de la liberté d'expression. Ça passe beaucoup par la subvention, ce qu'elle subventionne, ce qu'elle ne subventionne pas. Et puis des fois, elle vient à la radio nous expliquer qu'il y a des gens à qui il faut plus donner la parole parce que c'est inacceptable de leur donner la parole.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que avoir montré ces caricatures, ça a pu aussi choquer des parents? Est-ce qui, notamment même concernant Charlie Hebdo, republier les caricatures de Mahomet comme le journal l'a fait, est-ce que ça semblait pertinent selon vous ou est-ce que c'est une provocation de plus? Est-ce que c'est utile? Quel est
alors,
votre point de vue?
Je vais vous dire, moi, parce que j'ai un avis singulier là-dessus, moi je suis pas quelqu'un qui est républicain, hein. Moi je suis pour une royauté avec une religion d'État, donc moi le blasphème, quelle que soit la religion, c'est quelque chose qui me fatigue, je suis pas pour, je trouve que c'est inutile. Cela dit, je suis pas pour l'interdiction du blasphème, c'est-à-dire que je condamne le blasphème, d'accord, enfin, surtout pour ma religion, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut exterminer les gens qui ont blasphémé, d'accord, voilà. Il y a Frédéric Fromet qui a fait une chanson sur Jésus-Christ, où il a insulté Jésus-Christ, ouais. Bon, il s'est pas fait décapiter. Voilà, ça a offusqué plein de gens, moi le premier. Voilà, donc est-ce qu'il faut montrer ces caricatures?
Je crois même pas qu'il ait été d'ailleurs...
Il n'a pas été inquiété, mais parce qu'il n'a pas affaire à la même clientèle, voilà. Il n'y a pas de Jésus Akbar, il n'y a pas de terroristes qui se font exploser au nom de Jésus Akbar, c'est de la science-fiction. Donc c'était pas la même clientèle. Et donc si vous voulez, je pense que l'éducation nationale, pour répondre à votre question, devrait avoir les burnes de montrer ses caricatures, c'est ce qu'elle devrait faire à la rentrée. Moi je suis contre, mais par principe, étant donné que quelqu'un a essayé de nous interdire de le faire, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la France, voilà, c'est le pays de la liberté, de l'amour, de la liberté d'expression, eh ben allons-y là, il faut que la République elle assume tout ce qu'elle a produit, et qu'à la rentrée, elle nous montre qu'elle est puissante, elle nous montre qu'elle est sûre d'elle, et qu'elle impose à tous ses professeurs de montrer des caricatures lundi matin dans les classes. Même si des caricatures me déplaisent, pas forcément celle sur Mahomet, ou parce que Charlie Hebdo a beaucoup aussi attaqué le christianisme. Ce journal, je le porte pas dans mon cœur. Après, il a le droit d'exister, et il faut que la République aille au bout. Elle est dans un cercle, si vous voulez, la République, elle est en train de se mordre la queue. C'est-à-dire qu'elle a voulu détruire la France, et aujourd'hui, l'appareil qu'elle a utilisé pour détruire la France est en train de lui sauter au visage. Donc, c'est une affaire entre la République et son bras droit, et son bras armé. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, en tant que Français royaliste, je vais regarder tout ce petit monde s'autodétruire, et puis quand on sera allé au bout des paradoxes, au bout de la folie collective, au bout du suicide, eh ben, peut-être que de tout ce charnier gauchiste ressurgira une France, on se remettra à faire des cathédrales plutôt que de faire des clips de Weshden.
Dans un tweet, c'était 8 mai dernier, vous écriviez, alors je vous cite là encore, finalement Schwarzenegger, Stallone ont la même doctrine que moi, la société multiraciale, hein, pas multiculturelle, est possible, le seul truc c'est de désigner quelle, Je vous cite là encore, quel cul doivent être bottés au nom du bien commun. Vous distinguez donc, Papacito, une société multiraciale possible à vos yeux d'une société multiculturelle qui, elle, ne la serait pas, c'est ça?
Tout à fait. Une seule culture qui est la culture française, qui est très bien définie. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Voilà, la culture française, c'est, je pense que les gens qui l'aiment savent à quoi ça correspond. Et par contre, je pense, moi qui je suis, je veux dire, je suis, mes grands-parents sont immigrés.
Moi, j'ai... Oui, puisque votre nom, hein, on peut le dire, ça. C'est Hugo Gil Jiménez. Hein, voilà. Vous êtes enfant d'immigrés espagnols.
Qui est un nom purement espagnol, mes deux patronymes sont espagnols, mes deux parents sont d'origine espagnole. Qui suis-je, moi, pour fermer la porte à la prochaine génération d'immigrés qui a envie d'être française? Moi, mes grands-parents, mes parents avaient envie d'être français. Moi, je suis né français, mais je suis content de cultiver ça. Il faut laisser la porte ouverte à ceux qui, non seulement veulent être français, le méritent, mais vont apporter aussi une plus-value à ce pays. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières et de dire, bon, tous ceux qui veulent être français, venez. Mais de laisser la possibilité à des gens, même s'ils viennent... Moi, je ne suis pas sur la race, moi, je suis sur la culture et sur les comportements. Quelqu'un qui se comporte bien, qui va amener une plus-value réelle à la France, hein, pas seulement travailler le strict minimum, je parle d'une plus-value réelle à la France. Ben, qui je suis pour lui fermer la porte? Je ne suis pas un Français de souche, je ne peux pas me... Je peux pas, c'est au peuple historique de voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à moi de le décider. Mais je serais bien, ça serait vraiment injuste que moi, ayant bénéficié de cette possibilité qu'a offert la France à mes grands-parents de devenir français, je l'interdise à d'autres qui sont de bonne volonté. Voilà.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent de raciste ou qui vous traitent d'islamophobe?
Si vous voulez, alors, raciste, d'une part, bon, je crois que les gens sont renseignés sur ma vie privée. Bon, elle parle pour moi, donc non, le racisme, c'est pas quelque chose.
Le 12 mai 2018, ouais. Pardon, vous répondiez à un tweeto qui vous demandait si vous pensiez que les musulmans étaient collectivement responsables des attentats et que tout musulman est un terroriste potentiel. Voilà ce que vous répondiez. Oui, je pense que chaque musulman, face à un stimuli ou facteur déclenchant X, peut passer d'un islam passif à un islam actif.
Je maintiens parce qu'en fait, dans la, il faut bien comprendre que
c'est pas un appel à la haine, ça, non, enfin.
Non, je pense pas. C'est un constat. C'est-à-dire que il y a un courant qui donne des préceptes. Ces préceptes, ils sont très clairs. Alors après, on peut faire les exégèses qu'on veut dessus, les explications qu'on veut. Noir sur blanc, il est écrit que le koufar, l'infidèle, est un ennemi. Donc, ça ne veut pas dire que chaque musulman va se livrer à un meurtre ou que chaque musulman va s'attaquer à un Français qui n'est pas musulman. Mais par contre, je pense qu'en lui, il y a les germes, si on le stimule suffisamment. Là, regardez, c'est très simple. Hein. Il y a eu le discours de Macron sur le séparatisme, d'accord ? Il y a eu des menaces de certains représentants musulmans qui ont dit « Ah, attention, si vous en prenez à notre communauté, ça va barder. » On a une décapitation. C'était quand le discours, rappelez-moi, le discours de Macron sur le séparatisme, c'était il y a 2 semaines.
C'est ça, oui.
Il y a 2 semaines, 15 jours plus tard, on a une décapitation. Si ce n'est pas l'application de ce que je viens de dire, on a un discours, on a eu du remous dans cette communauté-là, et ces éléments les plus extrêmes se sont livrés à ça. Après, tout musulman n'est pas effectivement un terroriste, bien sûr.
Papacito est notre invité en direct jusqu'à 14h dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, à l'occasion bien sûr de la sortie de son dernier ouvrage qui caracole en tête des ventes. Ça s'appelle Expédition Punitive, c'est aux éditions Ring, et puis bien sûr on commente cette actualité très grave. On est ensemble jusqu'à 14h, à tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisot.
13h passé 30 minutes, nous sommes toujours en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles avec notre invité plus incorrectible que jamais. Il s'appelle Papacito et il vient de sortir son dernier best-seller, hein, en tout cas on peut l'appeler comme ça puisqu'il caracole en tête des ventes aux éditions Ring. Ça s'appelle Expédition Punitive. Alors Papacito, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias, mais vous êtes un véritable phénomène, hein, sur les réseaux et notamment sur YouTube où vos vidéos font parfois beaucoup plus qu'un million de vues à chaque fois. On va reparler de ce livre dans un instant. Juste pour terminer, donc on parlait bien sûr des suites de ce terrible attentat, hein, on peut l'appeler comme tel, de cette décapitation. Et là vraiment on a franchi, on a l'impression, un véritable cap, hein, de ce pauvre professeur, hein, à qui un hommage national, hein, sera rendu mercredi prochain. Vous considérez que la France, je vous cite, islamo-gauchiste, comme vous la qualifiez donc dans vos différents tweets, la France de Macron, de Mediapart, de Yann Barthès, etc., cherche sans cesse des moyens de trouver des excuses au terrorisme islamiste, à la délinquance et à la violence de certains jeunes issus de l'immigration maghrébine. Vous confirmez, c'est tout ?
Bien sûr, parce qu'en fait...
très violent, c'est...
Non, parce que c'est une réalité. On en est là parce qu'il y a des problèmes qu'on a. On a donné des solutions, on a donné des explications, qui étaient sociologiques, qui étaient voilà. On ne veut pas s'atteler au problème. Il y a un problème. Moi, je pense, je vais vous dire, il y a un problème Par exemple, ne serait-ce que dans les musulmans qu'on a chez nous, d'accord, qui viennent majoritairement, je parle pour Toulouse, mais c'est des gens qui viennent majoritairement d'Algérie. Il y a eu une guerre avec l'Algérie très récemment. Ces gens-là ne l'ont peut-être pas digéré comme l'a digéré la France. C'est des gens qui viennent avec, pas tous, hein, mais certains viennent avec une rancœur. Et nier ces phénomènes-là fait que les problèmes ont grandi dans leur coin. On a relégué la gestion des banlieues aux grands frères, entre guillemets, avec l'argent du Qatar, de l'Arabie Saoudite. La République s'est barrée de ces endroits-là. On a laissé pourrir. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule. Et on est encore en train d'essayer de remettre le problème plus tard. On ne veut pas traiter le problème. On ne veut pas crever l'abcès. Alors qu'il y a énormément à dire là-dessus. Certains essayent de le faire. Je pense à Éric Zemmour, et ils sont dans le collimateur et ils sont sous le feu pour ça.
Mais alors pourquoi est-ce que, selon vous, on a perdu ce sentiment de patriotisme qui vous anime tant ? Donc pourquoi être patriote en France est si mal vu, associé au racisme très souvent, là où par exemple il est mis en avant à l'étranger, aux États-Unis notamment, avec fierté ?
Ça a pu se produire parce que le français a été défrancisé depuis 150 ans à partir de la Révolution française. C'est ma thèse, c'est la thèse de d'autres personnes. Je pense qu'on lui a confisqué sa religion, on lui a confisqué ses défenses immunitaires. Un corps, ce qui fait qu'il sent qu'il est attaqué, c'est son réseau nerveux, d'accord ? Le réseau nerveux du corps français, c'était la religion catholique. La République a tué ce réseau nerveux. L'autre réseau nerveux de la République, c'était son identité, ce qu'on appelle l'esprit de clocher. On dit pas l'esprit du centre des finances publiques ou l'esprit de la mairie. On dit l'esprit de clocher. Pourquoi ? Parce que le catholicisme fondait une nation. Les gens étaient reliés entre eux par le sentiment d'une nation, par le sentiment d'appartenir à un bloc. Aujourd'hui, il n'y a que des individus en transit dans la rue. Il n'y a plus de bloc français. C'est pour ça. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, qui disent mais on a décapité l'un des nôtres, puisque c'est l'un des nôtres, hein, c'est un Français, il a la même carte d'identité que moi, il s'est fait décapiter, et il n'y a pas de réaction, je suis Samuel, je suis Charlie, je suis ci, je suis ça, mais il n'y a pas de réelle réaction viscérale ferme, parce que il n'y a plus d'identité, un corps pour sentir qu'il a été blessé, il faut qu'il ait son réseau nerveux.
Le corps en la France, nation ça... alors
Pardon ?
Comment refaire nation, selon vous ?
Comment refaire nation ? Il faut réintroduire, il faut arrêter de faire du French bashing en classe. Les élèves aujourd'hui à l'éducation nationale apprennent la détestation de leur pays. Il faut que les médias arrêtent de nous servir des fictions qui sont accusatrices à l'endroit des Blancs et à l'endroit des Français. Il faut qu'on arrête toute cette propagande, mais qui est une propagande énorme. La semaine dernière, je regardais dans les replays d'Arte, il n'y avait que des émissions qui étaient consacrées à les Blancs ont fait de l'esclavage, les Blancs ont fait ci, les Français sont coupables de ça, les Français ont noyé des Algériens dans la Seine, la torture en Algérie, si ça. En fait, un jeune Français aujourd'hui qui naît, quand il regarde la télé, quand il va en classe, on lui apprend à détester son pays. Et en plus de tout ça, il n'a plus de religion. Donc il est complètement désemparé. Et toutes les misères du monde qui vont lui arriver, il va les vivre seul, plutôt que de vivre le trauma de manière collective au sein de la nation.
Petite parenthèse sur votre livre dont on va revenir dans un instant. Quand on vous lit, ça allait à la fois drôle et terrible. Hein. Vous jouez une fois de plus sur la provoque, hein, je le disais, ou vous pensez réellement tout ce que vous écrivez, Papacito ?
Mais honnêtement, je pense ce que j'écris, mais après il y a des figures d'exagération qui me plaisent parce qu'esthétiquement j'aime l'exagération, parce que ça c'est.
Et vous pensez que c'est le moyen de faire passer ?
Tout à fait. C'est l'emballage qui fait que le sucre à l'intérieur est absorbé. Voilà. Vous avez des bouquins de 300 pages qui parlent la même chose, c'est bien. Il y a des mots compliqués, c'est pas rigolo. Il y a moins de gros mots, les gens ne les lisent pas. Alors ils sont sans doute littérairement mieux ce que vous voulez, mais les gens ne les lisent pas, ils ne prennent pas de plaisir à les lire, donc du coup ils ne les lisent pas. Moi, j'essaie de donner à la fois le sucre et à la fois un petit peu le sel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu d'enrobage, de provocation systématiquement dans tout ce que je fais. Bien sûr, mais après, les choses que je défends, j'y crois, bien sûr.
Alors, il y a l'autre sujet du moment, bien sûr, c'est cette crise sanitaire. Hein. On va parler de ce virus qui n'en finit plus d'alimenter l'actualité et les décisions politiques. Quel est votre regard sur cette crise sanitaire et la façon dont elle est gérée en France, globalement ?
Ben, c'est complet. En fait, il y a deux choses qui sont complètement folles. Vous avez d'un côté des mesures qui sont drastiques, où on va les contrôler, où c'est 150 euros d'amende si vous oubliez le casque. Vous savez que, je suis désolé, je vais parler d'un détail macabre. Je suis désolé. Vous savez que sur la photo qui a circulé sur les réseaux de la
terrible,
tête décapitée
ouais,
du professeur, il y a encore le masque dessus. Le mec s'est fait décapiter avec le masque sur lui. Et il y a encore le masque sur la tête quand il est décapité.
Vous êtes sûr de cela?
Oui, le masque est enlevé, il est sur la gorge, il y a encore le masque sur la tête. Donc ça veut dire que c'est un mec à un moment qui a eu la pression de prendre 150 euros d'amende au cas où il n'aurait pas le masque. Et par contre, il peut se faire décapiter dans la rue. Vous voyez le comment ces deux choses-là se percutent. C'est-à-dire que d'un côté, on a des mesures drastiques complètement folles, complètement sans fondement, qui n'ont ni queue ni tête. En plus des questions d'horaire, ça n'a ni queue ni tête. Qui viennent se calquer sur une actualité, mais qui nous amène à 100 lieues de ça. C'est-à-dire que si le péril français, c'est les microbes, bon, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que moi j'en vois un deuxième qui apparemment fait quand même beaucoup plus de dégâts, ou qui va en faire beaucoup plus à long terme.
C'est lequel?
Bah, pour moi c'est l'islam radical. L'islam radical est déjà en train de faire extrêmement mal, et j'aimerais que la rigueur et l'intransigeance qui est mise pour gérer la crise sanitaire le soit aussi pour la crise terroriste. Emmerder les gens pour un masque. Enfin, si le projet de la France c'est sortir dans la rue, avoir le choix entre foutre un masque et se faire décapiter, ça a comme compliqué d'être heureux dans ce pays-là. Voilà. Et ça serait bien qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. C'est exactement comme ce qui s'était passé au début des Gilets jaunes. Voilà. Il y a des quartiers qui sont en roue libre, et puis il y avait des mecs qui venaient manifester pour le diesel parce qu'ils habitaient à la campagne, ils se sont fait éborgner. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est en fait les gens qui sont solvables, la classe moyenne se fait étrier, et la République forte avec les faibles, faible avec les forts. Voilà. Et là-dedans, on a tout ce qui se passe. On a complètement.
Il y a une expression d'Agatha Christie, hein, je ne sais pas si vous l'avez vue, un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups.
Oui, tout à fait, parce que ne sont terrorisés que les gens qui sont terrorisables. Vous comprenez ce que je veux dire?
Considérez qu'on a un gouvernement de loups, vous, par exemple?
Oui, parce qu'en fait, ils ont bien vu qu'en face, il n'y a pas de répondant, et puis il faut dire aussi qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place pour que les gens soient complètement dans l'incapacité de se défendre ou de revendiquer. On a vu comment le gouvernement a très bien géré la crise des Gilets jaunes, et on a étouffé cette révolte dans l'œuf. Aujourd'hui, je crois que si les Français sont aussi maltraités, c'est parce qu'ils sont maltraitables. La responsabilité, elle est nôtre. Nous laissons trop faire, nous avons trop longtemps voté pour des gens laxistes, nous avons trop de fois accordé notre confiance à des gens qui nous ont abusés. Moi, j'attends fermement 2022. Là, je vous dis un truc très simple. Hein. On a eu le Covid, on a eu les Gilets jaunes, on a eu l'affaire Benalla. Enfin, ça n'arrête pas. On est allié d'Erdogan qui est accusé d'amener des djihadistes de Syrie en Azerbaïdjan. On se retrouve avec un gouvernement qui fait des choses, enfin pour moi, qui laisse faire des choses criminelles et qui fait des choses criminelles et qui est allié de criminels. Si on accepte ça et qu'en 2022 il n'y a pas un énorme bouleversement, c'est que les Français sont en position de vouloir se suicider. Ce sont des gens qui sont... Je me demande si ce peuple n'est pas suicidaire. Parce qu'élection après
en 2022, élection... vous apportez votre soutien à qui s'il y a un débat?
Le Front National. Le Front National.
Marine Le Pen.
Oui, elle n'est pas parfaite, hein, bien sûr, mais on n'a jamais essayé. Tout ce qu'on a eu avant nous a mené là où on en est. On verra. Moi, j'espère que c'est le dernier train avant l'apocalypse, si vous voulez. Donc, faut pas le rater. Donc, moi, je le dis sans. C'est maintenant.
Sans emballe. Bah, là,
oui,
moi, c'est
oui,
clair.
Oui, parce que si vous voulez, maintenant, si c'est être traité de fasciste ou être décapité, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire maintenant. On n'a plus le choix. Faut y aller là. Donc, voilà. Oui, 2022. J'espère qu'il va y avoir un sursaut national. Si les Français en 2022 ne se rebellent pas, ça veut dire que c'est un peuple qui veut suicider. Enfin, à mes yeux, hein, ça veut dire que c'est un peuple qui veut suicider.
Alors, en parlant toujours de cette crise sanitaire, moi, j'aimerais avoir aussi votre avis. Alors. Je vais pas donner le mien, mais pour une fois, je vais un peu le donner. Moi, il y en a un qui commence autant, qui est un immense acteur, mais qui s'est exprimé chez nos confrères d'RTL. On va pas le réécouter, mais il commence moi un petit peu à me les gonfler, parce qu'il nous donne des leçons de morale en permanence. C'est François Cluzet, qui s'en est pris, alors on savait qu'il s'en était pris à Jean-Marie Bigard, et il s'en est pris très violemment cette semaine, donc à Fabrice Lucchini, qui, au crime, a osé critiquer le gouvernement. Alors, j'aimerais savoir de quel côté vous êtes, et si ce côté leçon de morale de Bobo, puisque là, vraiment, quand on voit votre livre, vous êtes vraiment l'incarnation, justement, de cette France, on va dire, d'en bas, avec des
oui,
méga
non,
guillemets,
de
hein,
ouais,
vous avez bien
sûr,
compris
bien
que je ne le disais pas de manière péjorative. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à François Cluzet?
Bon, déjà, il faut bien comprendre que François Cluzet...
Qui est un immense acteur au demeurant, ça,
oui.
On le dit.
Oui. Donc François Cluzet, enfin c'est-à-dire son fils, c'est au fait, c'est intouchable. Bon, si le parangon de la gauche c'est faire des films sur un noir qui porte un blanc handicapé pendant une heure et demie, si vous voulez, si ça c'est le triomphe de la gauche, très peu pour moi. Ça c'est pour le volet acteur de François Cluzet. Mais bon, ça je laisse à chacun l'appréciation du taux de racisme d'intouchable. C'est une question qui prend du temps à traiter. Sur la question du camp dans lequel je suis, mais Monsieur Cluzet ne peut pas attaquer la main qui subventionne le système sur lequel il vit. Si vous voulez, le cinéma français, c'est un petit peu comme les parasites dans la nature. Il se greffe à un corps, il lui aspire toute son énergie qui s'appelle les subventions. Le CNC, c'est une grande famille qui s'auto-subventionne. La main qui donne ses subventions, c'est le gouvernement, c'est l'État. Il ne va pas s'en prendre à un État qui lui subventionne ses films. Il ne va pas s'en prendre aux gens. On n'a jamais vu une pute aller gifler son Mac. Ça n'existe pas. C'est le Mac qui met des torgnoles à la pute et après la pute tapine. Donc, Monsieur Cluzet est venu à la radio faire exactement ce que lui a dit son Mac qui s'appelle le CNC et donc derrière l'État, c'est de tapiner pour ces mesures qui n'ont absolument aucun fondement scientifique. Puisqu'en Suède, il n'y a pas eu de confinement et sensiblement, il n'y a pas eu de vague de mort plus qu'ailleurs.
Mais vous pensez qu'elles n'ont aucune utilité, ces mesures ?
En fait, je pense qu'on aurait dû... déjà, moi, je m'en remets au professeur Raoult. Hein, moi, je suis un fervent défenseur du professeur Raoult. Je pense que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après, le personnage est discutable, ce qu'on veut, mais je pense que quand même, il fait autorité dans son domaine. Et je pense qu'on aurait dû confiner les gens qui étaient à risque. On aurait dû organiser, l'État aurait dû organiser une solidarité vraiment très efficace sur les personnes à risque, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, nos anciens, et laisser les gens qui ne sont pas concernés continuer à vivre. C'est-à-dire confiner les gens qui auraient pu être atteints, mais les confiner avec des moyens, en les subventionnant, voilà.
Papacito, auteur d'Expédition punitive aux éditions Ring, best-seller en devenir, hein, puisqu'il est en tête des ventes, hein, puisqu'il vient de sortir, hein, c'était le 15 octobre si je ne me trompe, est avec nous encore un bon quart d'heure sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on continue bien sûr de parler de l'actualité, mais aussi de cet ouvrage. Vous y allez fort, à tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisot.
De retour dans Les Incorrectibles, 13h, passé de 45 minutes, nous sommes toujours en direct avec notre invité cette semaine, c'est Papacito. Bien sûr, pour commenter cette actualité, on l'a fait évidemment concernant ce terrible attentat, et puis on a parlé aussi de la crise sanitaire, mais c'est surtout aussi l'occasion pour ce dernier quart d'heure de revenir sur ce dernier ouvrage, hein, donc Papacito, que vous avez écrit, qui s'appelle Expédition punitive, hein, qui est disponible depuis quelques jours aux éditions Ring, qui caracole, je le disais, déjà en tête des ventes, mais ce n'est pas la première fois, puisque c'était déjà le cas pour vos livres précédents. Alors, il y a un avertissement au lecteur d'emblée, je le lis. Vous tenez entre vos mains une des plus belles conquêtes du peuple français, le droit à la satire, à la caricature, un droit inaliénable de notre peuple. Y a-t-il quelque chose de plus français que de faire vivre et défendre la liberté d'expression ? C'est avec un langage fleuri et la gouaille, hein, qui vous caractérise, hein, qu'on retrouve ce livre, hein, qui mêle des punchlines. Alors, vous défendez d'être vulgaire, hein. Vous qualifiez grossier, ça vous dérange pas, mais pas vulgaire, jamais. Si vous deviez pitcher votre livre, là, pour les auditeurs qui vous connaissent pas, qu'est-ce que vous diriez ?
Oh ben, c'est une sanction, c'est une longue sanction de 300 pages sur tout ce qu'il y a d'irritable et d'irritant dans notre société. Et c'est servi avec avec le style que je déploie en vidéo sur YouTube. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont envie de connaître, vont sur YouTube et regardent mes entretiens chocs. Et le livre est un prolongement des entretiens chocs.
Qui font plus d'un million de vues à chaque fois. Hein.
C'est incroyable. Oui, c'est aux alentours de millions.
Vous n'êtes invité, excusez-nous, à part chez nous.
Oui, c'est vrai.
Vous n'êtes invité quasiment nulle part.
Alors il y a TV Liberté qui m'invite de temps en temps. Oui, les médias de gauche, les médias subventionnés à très haut niveau. Non, bien sûr, parce que si vous voulez. Les dés sont un petit peu pipés pour les gens comme nous. Je pense au dessinateur Marceau, je pense à l'écrivain, ouais, Laurent Berton, mon collègue de chez Ring. Pour nous, il faut vivre par son talent, puisque les gens qui vous lisent doivent être satisfaits de ce que vous lisez, puisque vous n'aurez pas de promo chez Ruquier, vous n'aurez pas de promo ailleurs.
En pensez quoi de Ruquier ?
Oula, Ruquier, c'est pareil que la gauche. Si vous voulez, Ruquier, il défend des gens.
C'est pas lui le X, entre guillemets, dont on parle souvent dans votre livre.
Non,
je crois deviner qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. On va y revenir.
C'est pas lui, et je pourrais pas dire qui c'est d'ailleurs, pour des raisons que vous pouvez deviner, pour des raisons de juridiques. Non, Laurent Ruquier, c'est pareil. Laurent Ruquier va vivre ce que va vivre l'extrême gauche, c'est-à-dire que ceux qu'il défend vont finir par le pendre pour des motifs, de mœurs qui ne rentrent pas en adéquation avec la manière dont doit se vivre l'islam. Donc je sais pas, est-ce que la France de 2050 pardonnera à Ruquier certains aspects de sa vie personnelle? Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui vont déchanter. Vous savez, quand le peuple historique, quand les militaires, les policiers ne pourront plus faire tampon, les bobos, d'accord, les utopistes vont se retrouver nez à nez avec ce qu'ils ont toujours relégué derrière le périph. S'il y a toujours quelqu'un qui pouvait s'occuper de ça. Et un jour, ils vont devoir vivre avec ces gens-là. Et quand ils vont vivre avec ces gens-là, ça va leur faire extrêmement bizarre, parce qu'ils vont voir que beaucoup de leurs mœurs ne conviennent pas au grand projet néo-français.
Parce que justement, excusez-moi de revenir donc à cette définition que vous faites de vous, hein, puisque vous vous définissez comme un patriote royaliste, nostalgique de la France d'antan, de l'époque médiévale où les hommes portaient haut leur virilité, où l'on mangeait gras et de la vraie viande de gibier fraîchement chassée, et non du steak au tofu et des graines de soja, où l'on picolait du bon rouge, du pastis, et vous citez souvent les icônes musclées du cinéma américain, dont je le rappelle, tels que Stallone ou Schwarzy. Le mot « burne » entre guillemets est un de vos termes de prédilection. Alors pour vous, l'homme d'aujourd'hui, il a été dépossédé de sa virilité. On a engendré ce qu'on appelle entre guillemets le métrosexuel faible et féminisé, a enterré le mâle alpha en le faisant passer pour un gros beauf, une brute machiste et ringarde, entraînant par là même la perdition de notre société. Il faut redéfinir, selon vous, Papacito, les codes du masculin. C'est quoi un vrai mec à vos yeux?
Mais un vrai mec, il n'y a pas de prototype particulier, il y en a plusieurs. Vous allez voir l'agriculteur là, pas
vous
loin
êtes, de... Vous n'êtes pas machiste?
Si je suis machiste, je suis un machiste exalté, mais un machisme patriarcal, sympathique, d'accord, défenseur des femmes. Mais bien sûr, moi je le revendique, il n'y a pas de problème.
Non, parce que à vous lire, Macron semble parfaitement incarner hein, cet homme dévirilisé que vous honissez, vous le moquez souvent.
Oui, tout à fait, mais par opposition, vous m'avez demandé des modèles de virilité. Par exemple, pour moi, un Jean Lassalle, une virilité, mais c'est un type de virilité. Vous avez Stallone, vous avez le père de famille.
On recevra d'ailleurs dans 15 jours.
Stallone ou non, Jean Lassalle. Parce que c'est presque c'est le même, c'est presque la même catégorie.
Non, mais intellectuellement, je pense qu'il y a un peu plus de. Enfin, je sais pas encore.
Ah, attention, Stallone, c'est quand même un mec qui est reconnu. Ouais, pour son, je crois qu'il a un QI énorme en plus. Le paysan, le Stallone, le Jean Lassalle, le père de famille qui va bosser toujours. Il y a plusieurs virilités. Bien sûr, moi j'utilise des...
Non, parce que je vous cite encore un truc. Ouais. Le 28 juillet dernier, pendant que Macron invite des transsexuels à danser à l'Élysée et nous prive d'honorer notre lourde armée pour le 14 juillet, le lourd président Poutine tire des coups d'artillerie lourde pour souhaiter joyeux Noël aux habitants de Saint-Pétersbourg. Bien le burnomètre, je vous cite.
Ouais, mais bien sûr, parce que Poutine, il fait rêver son peuple. Poutine, il fait du judo.
Donc
Poutine,
la salle, du cheval, ce sont des vrais mecs, des vrais leaders à vos yeux. Parce que,
voilà. Mais déjà, visuellement, quand vous les voyez, d'accord, et que vous voyez Macron à côté, lequel est un Chupa Chups et lequel vous donne le sentiment d'être un homme,
tout simplement. Il n'a pas les épaules, selon vous, pour être leader d'une nation? Ça se juge au physique. Mais à la gueule.
Ça se voit, c'est bon, à la gueule.
Enfin, Mitterrand, c'était pas Stallone non plus, excusez-moi.
Tout à fait. Non, mais la gueule, c'est une chose. Mais à l'épreuve des choses, vous voyez bien que là, la France se fait ramener par tout le monde, hein, se fait ramener par Erdogan, se fait ramener par le terrorisme.
Ouais. Enfin, c'est un peu plus l'intelligence pour moi, la vision, la capacité de prendre des décisions. Juste,
vous voyez, mais il faut les deux.
Mais bon, j'entends.
La vérité n'est pas que le culte de la force. Il y a aussi un culte de la force de l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire?
Qu'on vous traite d'homophobe souvent, hein.
Ouais. Mais c'est, je vais vous dire, de toute façon, à partir du moment, j'ai des réserves personnelles dues à mes croyances religieuses sur l'homosexualité. Je suis pas quelqu'un qui veut poursuivre les homosexuels, je veux pas criminaliser l'homosexualité. Vous comprenez? Donc,
on est rassuré.
Voilà, que je sois homocritique, aucun problème. Après, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, si vous voulez mon avis, il y a en France une catégorie de gens qui sont homophobes qui iront beaucoup plus loin que trouver que ça va à l'encontre de leur préceptes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc,
votre chapitre, il y a un chapitre qui s'intitule, là encore, entre guillemets, « L'homme anus versus l'homme d'avant », où on ne dévoilera pas de quel animateur télé vous parlez, même si on l'a très bien compris, hein, on le devine. Ce chapitre, il est quand même un peu homophobe quand on le lit, non? Vous le
revendiquez pas? Non, parce que c'est pas l'homosexualité qui est virée, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est la féminisation, parce que, si vous voulez... Des homosexuels historiquement, d'accord, historiquement il y a eu des homosexuels qui ont fait des choses incroyables. Je pensais, alors je sais plus si c'est Pancho Villa ou son acolyte, je sais plus, il y a un des deux là de la Révolution mexicaine qui était homosexuel. Freddie Mercury, que j'adore, est homosexuel. Ce sont des gens qui portent quelque chose, quand même, qui nous transporte. Et leur homosexualité, là-dedans, n'est qu'un... Comment ça s'appelle ? C'est un... C'est négligeable. Moi, ce que je critique, c'est la promotion de l'homosexualité en tant que telle, comme modèle pour l'homme, y compris l'homme hétérosexuel. Et au-delà de ça, c'est la féminisation. Un homosexuel classique, comme on avait avant que ça devienne la mode, et que ça devienne même un style de vie, et que ça devienne une identité à part entière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est problématique. L'homosexuel historique, elle a toujours eu en France, ça n'a pas empêché la France de tourner, ça n'a pas empêché de certains homosexuels d'être des grands hommes. Ce que je critique, c'est le fait qu'on l'érige en modèle en contre de l'homme traditionnel et de l'homme ringard, enfin ringardisé en tout cas, qui est le cisgenre blanc de plus de 40 ans, quoi, voilà.
Alors vous êtes un nostalgique, je le disais, des films d'action hero, Testosterone, hein, des années 90, hein, dans lesquels Stallone, Schwarzy, Bruce Willis ou encore Mel Gibson ont connu leurs heures de gloire. Alors force est de constater que ce cinéma, il est un peu disparu, remplacé aujourd'hui par les héros Marvel. Alors Thor, Iron Man, Captain America, c'est toujours passé...
Ils sont passés à la Javel quand même, c'est moins... Ouais. Avant,
enfin, c'est couillu selon vous.
Voilà, le propos était clairement beaucoup plus décomplexé. Et c'était jouissif, et ça faisait du bien de voir ça. Si vous voulez, aujourd'hui, le cinéma français, c'est François Cluzet. Ben désolé, je préfère Stallone et Schwarzy en train de tirer dans la jungle du Panama que François Cluzet en train de se faire porter par un noir parce qu'il est handicapé et qu'il n'arrive pas à bander. Vous comprenez ? C'est pas des synopsis de films qui me transportent, moi. Voilà.
Alors, vous évoquez également dans le... Je crois que c'est l'un des tout premiers chapitres de votre livre. Je crois que c'est le premier, oui. Ce qui s'appelle Le Dernier des Mohicans, ce que vous appelez la diabolisation du français historique, c'est-à-dire du paysan. On parlait de Jean Lassalle tout à l'heure. Diabolisation par les français collabos gauchistes des villes. Vous écrivez, on allait faire du paysan, du chasseur et de l'artisan rural la honte ultime de la nation. Détruire ces salauds de violeurs alcooliques blancs des campagnes pour les remplacer par la pureté virginale de la société progressiste d'Afrique du Nord. Là encore, j'aimerais savoir qui sont ces collabos gauchistes des villes dont vous parlez. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces propos, je pense que Schering, on a dû le faire relire par des juristes, ça tombe pas sous le coup de la loi, non ?
Non, parce que c'est une réalité. Enfin, peut-être que ça tombe sous le coup de la loi, j'en sais rien, mais c'est une réalité. On a, si vous voulez, mais c'est tout un appareil. Dans les films, dans les sketchs, dans les humoristes des années 90, Canal Plus a été vraiment l'avant-garde de tout ça. On a beaucoup, beaucoup tourné en ridicule.
L'animateur là que vous décrivez sous X, là, il n'a pas travaillé avec Canal ?
Bah, bien sûr, lui
c'est ça, bon. Donc,
Lui, c'est un des vaisseaux amiraux de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu toute une propagande pour détruire l'image.
Et on le voit tous les jours à la télé, non ?
Pardon ?
On ne le voit pas tous les jours à la télé, on...
Non, mais je ne peux pas vous le dire plus. Bon, il faut que je me couvre juridiquement, mais d'accord. Les gens n'ont qu'à lire le livre et comprendront.
D'accord.
Donc, pour répondre à votre question, c'est tout un faisceau de choses, des films, des médias, des sketchs, où on a ridiculisé le français historique, le terroir, le paysan, et on a présenté un modèle. Vous savez, le film qui est symbolique de ça, c'est Taxi. Taxi, c'est un maghrébin cool qui va apprendre à un flic français de souche, qui est une merde, à devenir un être humain. Voilà, parce qu'il est présenté comme étant féminisé, il est présenté comme étant pas dégourdi, comme étant pas viril. Et ça, c'est quelque chose, bon, ça s'est concrétisé dans ces films-là, c'est quelque chose qui est très présent dans les productions cinématographiques de cette époque-là, Europacorp, Canal+, tout ce...
Mais pour vous, donc, Canal+, Barthès, ouais. La plupart des médias seraient responsables, selon vous, de ces pertes de sentiments patriotiques ?
Tout à fait, ils ont activement travaillé à ça, bien sûr, bien sûr. Par les subventions, mais ça appartient de Mitterrand en fait, où ça s'est vraiment accéléré. Les productions artistiques doivent... Vous regardez France 2 aujourd'hui, France 3, c'est perpétuellement une accusation de l'histoire de France, du peuple français, de l'histoire des Français.
S'agissant des lesbiennes, au vu de vos écrits, on imagine que vous êtes contre la PMA pour toutes les femmes, hein, qui a encore entraîné des manifs d'opposition le week-end dernier.
Ben parce qu'en fait, c'est la course effrénée à la destruction de la famille traditionnelle. Moi, bien entendu, en tant que catholique, avec des positions réactionnaires, bien sûr, je suis contre tout ça parce que je vois que derrière, ce qui est visé, c'est la famille au sens traditionnel du terme.
Et
la nation, c'est la famille.
Excusez-moi aussi, j'ai lu un petit peu aussi qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi vous apparteniez à la sphère nationale sioniste. Est-ce que vous avez entendu ça, non ?
Oui, c'est quelque chose qui émane de cercles qui sont extrêmement antisémites et que dès que vous n'êtes pas critique à l'endroit d'Israël et que vous n'êtes pas antisémite, tout simplement, vous êtes considéré comme étant à la solde du judaïsme. Moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est que je n'ai pas d'hostilité contre les juifs parce que j'ai grandi parmi eux. Parmi les musulmans aussi d'ailleurs, au Mirail, à Toulouse.
La France, elle est antisémite plus qu'elle n'est islamophobe, selon vous, ou pas ?
Alors, c'est pas tellement ça, parce qu'en fait, je pense que l'antisémitisme en France est plus vieux, puisque historiquement, il a plus de raisons, puisqu'il y a des juifs en France depuis plus longtemps, donc c'est plus vieux. Aujourd'hui, disons qu'il y a une convergence, il y a une certaine extrême droite qui converge avec une certaine extrême gauche, qui converge avec un certain groupe religieux pour se livrer à l'antisémitisme actif, oui.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup,
merci à
Papacito,
vous.
D'avoir accepté notre invitation dans les incorrectibles. Et en tout cas, là, vous avez bien respecté la ligne de cette émission, c'est-à-dire pas de langue de bois. En tout cas, les propos n'engagent que vous, bien sûr. Nous sommes en plus en direct. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h avec le professeur Perron. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio et puis allez lire Expédition punitive de Papacito aux éditions Ring. Bonne soirée.